Présidence.
Bonjour et bienvenue à tous dans Présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu es superstitieuse, Pauline ?
Non.
Non, bah tant mieux, parce que si je te pose cette question, c'est qu'aujourd'hui, on enregistre le 13e numéro de présidence. Alors, plus terrifiant que 20 chats noirs qui brisent un miroir en passant sous une rangée d'échelles, c'est le chiffre 13, dont on ne sait jamais s'il porte bonheur ou malheur. Peut-être que certains de nos auditeurs sont en train, en ce moment, de se demander s'ils doivent écouter ou non notre 13e émission. Et nous ne pouvons pas leur en vouloir, même les hommes politiques sont superstitieux, puisque le Figaro rapportait en 2009 que Nicolas Sarkozy conserverait dans un presse-papier un grand trèfle à quatre feuilles. Toujours selon le Figaro, Xavier Tiberi, donc la femme de l'ancien maire de Paris, avait l'habitude, à la veille des municipales de 2001 et des élections précédentes, de jeter du gros sel sous les portes cochères de ses adversaires. Bon. Et comment leur en vouloir ? En effet, depuis Goethe, on sait que la superstition est la poésie de la vie et sonne encore à nos oreilles l'écho de la voix de Baudelaire qui, dans « Mon cœur mis à nu » déclarait « La superstition est le réservoir de toutes les vérités ». Alors je ne sais pas si notre invité est superstitieux. En même temps, quand il a accepté notre interview, je ne lui avais pas précisé que ce serait pour le 13e numéro de notre émission. Notre invité, c'est Louis Alliot, vice-président du Front National chargé du projet et conseiller régional de Languedoc-Roussillon qui a accepté de répondre à nos questions au QG de campagne parisien de Marine Le Pen, sa compagne. Lui non plus n'est pas superstitieux et depuis Jérusalem, il garde toujours un regard attentif sur la vie politique française. Lui, c'est Amos, que l'on retrouve maintenant pour son carnet de campagne.
Il y eut le siège de La Rochelle, celui de Sébastopol. Il faudra maintenant compter avec le siège de Bayonne. Bar-tabac du Palais, rue d'Espagne, 1er mars 2012. Nicolas Sarkozy voulait rencontrer le peuple, il l'a découvert. Hué, insulté, Nicolas Sarkozy a dû se réfugier dans un de ces lieux qu'il a sans doute oublié. Le bar-tabac, cœur de cette France fatiguée, ronchonne, en manque de cigarettes, qu'on lui interdit, qu'on lui taxe toujours plus. Là où les Français jouent leur désespoir sur des grilles de loto, rêvant de décrocher le nécessaire que la politique ne semble plus en mesure d'assurer. On dit que c'est Michel Alliot-Marie qui organisa cette visite bayonnaise pour le président. Celle qui proposait le savoir-faire français à Ben Ali avait à se faire pardonner. Encore raté. Du peuple tunisien au peuple de France, la galaxie sarkozyste semble à des années-lumière de la réalité. J'ai d'ailleurs une pensée émue pour Nathalie Kosciusko-Morizet, petite princesse pleine de naïveté pour qui un ticket de métro coûte 4 euros. Ils ne peuvent pas prendre le métro ? Qu'ils voyagent en yacht, dirait la reine d'aujourd'hui. La France forte de Sarkozy semble prendre l'eau. Le sursaut attendu à l'occasion de l'entrée en campagne du président n'a pas eu lieu. Les sondages restent en berne, les idées ne prennent pas, et le candidat se droitise. Le halal, l'opposition farouche au droit de vote des étrangers aux élections locales. Était-ce un hasard si le bar tabac de Bayonne s'appelait le palais ? Encerclé ? C'est sous les huées de la majorité du peuple de France que le président sortant s'apprête à quitter l'Élysée. François Hollande reste le favori de la course. Enfin, il a sorti une proposition marquante, taxée à 75% les individus touchant plus d'1 million d'euros par an. La lance hollandaise qui viendrait fendre le bouclier fiscal. Les sondages tendent à montrer que les Français sont plutôt favorables à la proposition. 61% seraient favorables. Et pourtant, le doute subsiste. Si en 2007, on pouvait se déclarer farouchement, fermement, positivement sarkozyste, qui, en 2012, se dit hollandais, voire hollandiste ? Il n'y a d'ailleurs pas de mot pour dire ce qui n'est pas, ce non-enthousiasme pour un candidat vécu comme un pialet, une pommade bonne vivante. Au fond, chacun semble savoir que la crise est trop profonde pour qu'un ajustement fiscal suffise à la résorber. Au fond, chacun pressent que la dette est trop lourde pour que la France ne soit pas au bord de l'effondrement. Au fond, la France est gravement malade. Alors, plus que jamais, les alters candidats ont leur mot à dire. Le clan Le Pen, toujours à quémander ses signatures, ne manque pas d'en appeler à la haine, rappelant Sarkozy à ses pires promesses, notamment quand Marine Le Pen ose, à Marseille, « Où est le Karcher ?» Et forcément, ça prend. Dans un pays déboussolé, la menace de l'ennemi de l'intérieur fait florès. comme toujours. L'extrême gauche et l'extrême droite débattent sur les plateaux télé, Mélenchon contre Le Pen, le silence troublé de Marine, les invectives du tribun sans culotte, triste image d'une France des murs, des fractures, du monologue. Il faut espérer que le siège de Bayonne ne reste qu'un anecdotique épisode de campagne et qu'il n'augure pas le triomphe des extrêmes le 22 avril, voire un déchaînement de violence post-électorale de tous ces Français, trop longtemps dupés par les marchands de rêves professionnels que sont devenus les hommes et les femmes politiques. Reste 6 semaines pour inverser la dangereuse tendance.
Merci Amos. Une vague bleu marine aux élections régionales, un front national décomplexé depuis que le père Borgne a été congédié, une envie de refaire le coup du 21 avril, mais peut-être cette fois-ci à l'envers, le front national étonne ou inquiète, c'est selon. Alors nous avons décidé de rencontrer un de ses principaux dirigeants, son vice-président en charge du projet. En effet, pour parler du Front National et de son programme, un invité, Louis Alliot.
Louis Alliot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller régional de Languedoc-Roussillon après avoir été conseiller régional de Midi-Pyrénées, mais surtout vous êtes vice-président du Front National, parti auquel vous avez adhéré en 1990 et dans lequel vous vous êtes rapidement distingué, vous le major de l'université d'été du Front National de la Jeunesse en 1991, vous qui avez été notamment le coordinateur de la campagne de Jean-Marie Le Pen, campagne historique en 2002 donc pour votre parti, puisqu'avec un score de 16,8% des voix au premier tour, Jean-Marie Le Pen se qualifiait pour le second tour contre Jacques Chirac et devant Lionel Jospin. Au Front National, vous gravissez rapidement les échelons, plusieurs fois membre du cabinet personnel de Jean-Marie Le Pen et plusieurs fois membre du comité central de direction du Front National à partir de 2000. Vous occupez ensuite la place de secrétaire général du Front National du 11 octobre 2005 au 2 mai 2010, et vous êtes donc, depuis le 16 janvier 2011, vice-président du Front National, chargé du projet. Et c'est justement pour évoquer le projet du Front National que vous avez accepté de répondre aux questions, présidence, nous vous en remercions d'ailleurs, et nous signalons au passage que cette interview est enregistrée au QG de campagne du Front National, boulevard Malesherbes, à Paris. Alors Marine Le Pen est créditée d'environ 20% dans les sondages, et pourtant, on sait les problèmes qui entourent le rassemblement des fameux 500 parrainages. Vous avez, à ce propos, déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour établir l'anonymat des parrainages, parce que des maires de petites communes, comme il en existe beaucoup en France, peuvent hésiter à vous accorder votre parrainage, parce que le Front National n'est pas forcément le parti qui a la meilleure image. Juste comme ça, pas fréquentable, xénophobe, réactionnaire, même raciste, c'est des adjectifs qui vous collent à la peau, qu'on trouve dans les médias, alors même que ces mêmes médias soulignent que depuis que Marine Le Pen a pris la succession de son père à la tête du parti, eh bien, il y a eu un changement, un renouveau, une modernisation, un Front National qui serait redevenu fréquentable. On voit, par exemple, le nombre d'invitations dans les médias que fait l'objet Marine Le Pen, ce qui n'était pas du tout le cas de son père, voire même un parti qui se présidentialise. Donc, un discours assez paradoxal. Alors, soyons directs, le Front National, c'est un parti xénophobe ?
Non, pas du tout. C'est un parti francophile. C'est pas du tout pareil. Vous pouvez aimer votre peuple et aimer la France sans pour autant détester les étrangers ou avoir peur. Parce que la xénophobie, c'est quand même la peur de l'étranger. Donc pas du tout. Simplement, il a dans sa conception politique, il met en avant plutôt les Français dans une conception qui n'est pas raciale de la nationalité par rapport à d'autres sur des sujets très précis, sur l'emploi, sur les prestations sociales, mais peut-être nous y reviendrons. Sur le côté raciste, les mêmes maires qui vous disent qu'ils ne veulent pas signer pour Marine, vous en trouverez toujours, qui vous diront qu'ils ne veulent pas signer pour la gauche, parce que la gauche est crypto-communiste, qu'elle est stalinienne. Bien pour ça que nous militons pour l'anonymat, est-il normal que des courants d'opinion qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut même détester, soient présents ou soient absents de l'élection présidentielle ? Si on revient à l'esprit de la loi, au but de cette sélection des candidats à l'élection présidentielle, c'est la représentation de tous les courants d'opinion. Autant il y a un courant d'opinion national ou nationaliste en France qui a toujours existé et qui doit l'être à nouveau à cette élection. Il y a un courant trotskiste, il y a un courant même de communiste. Tout le monde sera présent à cette élection et c'est bien normal.
Donc vous militez évidemment pour que cette ligne nationaliste qui a toujours été présente soit présente à l'élection. En même temps, cette ligne nationaliste, est-ce qu'elle n'a pas été un petit peu infléchie par la succession de Marine Le Pen à la direction du Front National? Quand on regarde la ligne politique, on a quand même l'impression que le discours est neuf au Front National, n'est-ce pas?
C'est-à-dire il est neuf, il s'est adapté aux circonstances, parce que en fait, le Front National a vécu avec son président, on va dire, de 72 à aujourd'hui.
Très récemment, oui.
Et c'est une nouvelle génération qui arrive aux commandes du parti politique, et une génération qui n'a pas connu les grandes fractures de l'histoire française. Nous nous déterminons aujourd'hui en fonction d'une ligne politique qui va puiser évidemment dans la nation ses racines, mais qui tient compte des réalités d'aujourd'hui. Et ces réalités, elles sont le plus souvent, on peut le déplorer d'ailleurs, beaucoup plus économiques et sociales que spirituelles ou politiques au sens où on l'entendait au XIXe siècle.
On rapprochait souvent la politique défendue par Jean-Marie Le Pen de celle défendue par Margaret Thatcher ou Ronald Reagan. Et c'est vrai que quand Marine Le Pen défend les services publics, la retraite à 60 ans, le pouvoir d'achat, lutte contre la mondialisation, vous avez beau nous dire qu'elle s'adapte à la vie politique et au contexte politique du temps, on est quand même très loin des idées thatcheristes ou réganiennes.
Mais au moment des idées thatcheristes ou réganiennes, d'abord, le monde était celui-là, avec des fortes personnalités, comme d'ailleurs vous avez vu le dernier film sur Madame Thatcher,
bien sûr, oui.
Qui paraît qu'il est pas mal du tout.
Très bien, oui.
Nous sommes dans un monde où le mur de Berlin n'est pas tombé. On l'oublie tout ça. Il y a encore le bloc communiste et la lutte anticommuniste qui pèse sur le débat politique français. Il y a en France, c'est la politique de François Mitterrand du début des années 80, les nationalisations. Il y a un vrai débat sur un modèle socialiste ou communiste et puis un modèle un peu plus libéral. Le problème, c'est qu'évidemment, le libéralisme a tout emporté, hein, puisqu'il y a eu la conversion des socialistes français au libéralisme, le fameux tournant de la rigueur. Et quand vous lisez les bouquins sur François Mitterrand notamment, il explique d'ailleurs très bien, où il dit « nous sommes dans une guerre mondiale, une nouvelle guerre mondiale, et cette guerre mondiale, c'est sur le plan économique qu'elle se joue ». Mais à partir du moment où la guerre est lancée, où on s'engage sur les chemins de l'Europe, non pas l'Europe du général de Gaulle, l'Europe des patries, mais sur une Europe ultralibérale, une Europe marchande, une Europe financière, ben ça crée des dégâts sociaux. Bon, vous savez, je suis, et mon accent le prouve, je suis un rural. J'ai vu dans mon petit département de l'Ariège, petit à petit, disparaître l'aluminium, l'industrie, j'ai vu disparaître le textile, j'ai vu la paysannerie, l'agriculture reculer. Tout cela a une cause. Cette cause, c'est la mondialisation sans limite. Et donc à partir de là, le vote Front National commence à changer de nature et nous sommes là à peu près, c'est la présidentielle de 1995, où le politologue Pascal Perrineau sort un livre d'ailleurs sur le gaucho-lepénisme, où ils se rendent compte qu'une partie de l'électorat traditionnel populaire communiste qui avait voté Georges Marchais en 81, a voté Jean-Marie Le Pen en 95, et à partir de là, le discours du Front tient compte de ce particularisme pour une raison simple. C'est qu'arrivent comme adhérents au Front National et comme cadres des gens qui ne venaient pas du tout des familles traditionnelles de la droite ou, entre guillemets, de l'extrême droite, mais qui venaient du Parti Socialiste ou du Parti Communiste.
Pourtant, on a l'impression que ce discours-là, il s'est accéléré, accentué. Depuis l'arrivée de Marine Le Pen, on a vu la dissension médiatique de Karl Lang qui reproche à Marine Le Pen d'être d'extrême-gauche. Nicolas Sarkozy a conseillé lui-même dans un entretien au Monde à Marine Le Pen d'arrêter de reprendre des thèmes de l'extrême gauche parce que ce n'était pas une bonne politique de campagne. Et d'ailleurs, depuis son entrée officielle en campagne, Nicolas Sarkozy, que ce soit lors de son premier meeting à Annecy ou lors de son meeting géant à Marseille qui a suivi, il a tenu un discours très à droite. Autorité, travail, lutte contre l'assistanat des chômeurs, nouvelle loi sur l'immigration pour renforcer le rôle des tribunaux administratifs et mieux contrôler les mariages mixtes, non à l'euthanasie ou au mariage des couples homosexuels, non au droit du vote des étrangers aux élections locales. Bref, un discours très ancré à droite. Est-ce que vous ne craignez pas que Nicolas Sarkozy, justement, il attire des électeurs qui pouvaient être sensibles à ce discours que vous avez porté et que vous continuez à porter encore aujourd'hui, mais qui peuvent être étonnés par le changement de ligne imposé par Marine Le Pen.
Je ne crois pas, parce que vous savez, vous pouvez être préoccupé par le social, la solidarité, la fraternité, sans être de gauche. Et inversement, l'armée, la République, l'ordre, ce ne sont pas des valeurs comme ça, et qu'on devrait laisser à d'autres. Et moi, je conteste le fait que ces valeurs-là, défendues aujourd'hui par Nicolas Sarkozy, soient des valeurs de droite. Vous savez, Peggy n'était pas quelqu'un de droite, et pourtant, il a défendu ces valeurs-là, et avec quel talent. En fait, M. Sarkozy, il est, lui, en revanche, dans la communication politique. Voilà. Il nous a fait le coup en 2007, mais en 2007... L'élection était particulière, c'était la fin d'une génération politique. Et donc, lui, il apparaissait, je crois qu'il avait 52 ou 53 ans, assez jeune encore. Il venait d'être ministre de l'Intérieur avec un battage médiatique, voilà. Ça a marché, il a tout promis. Et c'est vrai, nous, on l'a vu sur le terrain, on a vu basculer une partie de notre électorat.
Il est fini sur la Sarkozy aujourd'hui,
je pense que c'est terminé. Je pense que quand une fois, aujourd'hui... c'est malheureux à dire aujourd'hui, mais les gens ne se font pas d'illusions sur rien ni personne. Ils ne font pas plus confiance aux gens de droite qu'aux gens de gauche.
Et justement, pour revenir sur cette distinction, gens de droite, gens de gauche, Marine Le Pen, on l'entend très fréquemment dire, mais le problème, je ne suis ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, parce que le clivage gauche-droite, il est dépassé. Marine Le Pen, elle fait du François Bayrou ?
Non, c'est François Bayrou qui fait du Marine Le Pen. Il y a un grand sujet aujourd'hui, c'est la place des nations... et inversement, ceux qui veulent moins de nations, moins de frontières, un monde un peu, je trouve, moi, utopiste et utopique sur le fait que nous ne serions que des consommateurs et pas des citoyens. Voilà, c'est un grand débat. Et de ce point de vue-là, il y a des enchevêtrements de familles politiques. Voilà, et quelquefois, on se retrouve à défendre des mêmes positions, par exemple à côté de M. Mélenchon, hein, alors qu'en face, nous avons le Parti Socialiste et l'UMP mènent à la main. Sauf que nous, nous avons rompu. C'est-à-dire que si demain, vous avez dans les législatives des candidats du Parti Socialiste et des candidats UMP, nous n'appellerons pas à voter ni pour les uns ni pour les autres, ce que pour l'instant le Front de Gauche ne fait pas, il continue à appeler à voter socialiste. Ce qui est, si j'étais dans le marxisme, une trahison du prolétariat. Et je trouve ça dommage. Pour le débat en général, parce que ce qu'il faut aujourd'hui contester et d'une manière abattre, au sens démocratique du terme, c'est le système. Voilà. Il faut construire autre chose et pour construire une autre espérance.
Détruire le système, dépasser le clivage gauche-droite, le remplacer par un clivage partisan de la nation, nationaliste, partisan de la mondialisation,
oui,
mondialiste.
Oui.
Le Front National est donc clairement du côté de la nation, alors après, de la appeler nationaliste, c'est autre chose.
Voilà.
En matière d'emploi, de logement, de santé, après avoir défendu la préférence nationale, vous avez parlé de priorité nationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, priorité nationale, et pourquoi avoir changé de terme, de préférence à priorité? Est-ce que c'est parce que Brigitte Barège avait repris ce terme de préférence nationale?
Non, pas du tout. La préférence nationale, elle a été développée, on va dire, au début des années 80, hein, par d'ailleurs des gens qui venaient de la droite et pas de l'extrême droite, on l'a oublié, hein, et notamment venait, je crois, du Club de l'Horloge. Même si elle était en filigrane dans le programme du Front National depuis longtemps, c'était juste l'idée qu'à compétence égale, dans un monde où il y a du chômage de masse et beaucoup de misère sociale, de donner, quand il y a un emploi, la priorité à celui qui a la carte d'identité française. C'est ça, la priorité. C'est pas une préférence raciale. Et si vous êtes domien, un noir martiniquais, vous bénéficiez évidemment de cette préférence nationale ou priorité nationale.
Alors pourquoi changement de terme, meilleure préférence?
Parce qu'il a été diabolisé. Voilà, on a fait passer cette préférence nationale pour un terme absolument abominable. Et encore, il a été théorisé au début des années 80, mais tout le monde avait oublié que le terme exact, lui, avait été défendu par le Front populaire et déposé à l'Assemblée nationale par les gouvernements de Léon Blum. Donc vous voyez, en période de crise, il n'est pas anormal de réserver une partie des emplois disponibles ou des aides sociales aux Français avant les autres. Voilà.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression de stigmatiser une frange de la population? Parce qu'il y a des Français, il y a en France, pardon, des étrangers qui ont leur carte de séjour, qui ont un travail, qui cotisent comme des Français.
Ceux-là n'ont pas de soucis.
Ceux-là ne sont donc pas concernés.
Ceux-là ne sont pas concernés. Ils sont donc concernés.
Ils rentrent dans la priorité Pôle emploi.
Non, puisqu'ils travaillent déjà, ils n'ont même pas à y rentrer. Ils y sont déjà.
Mais ils n'ont pas la carte d'identité
française. Non, mais ils travaillent. On ne va pas les sortir d'accord. de leur boulot.
Mais c'était bien de le préciser parce qu'il y a quand même des flous qui en.
Mais oui, on sait bien. Oui, on ne va pas les sortir de leur boulot pour les remplacer par des Français. Puisqu'ils sont en règle, ils sont. En revanche, quand vous avez 200 000 étrangers qui arrivent, d'ailleurs d'une manière illégale, on ne sait pas très bien, et que 5% d'entre eux ont un contrat de travail, alors ceux-là, c'est 5%, ils ont un contrat de travail, c'est donc qu'ils sont là d'une manière légale, mais les 95% autres, eux, n'ont pas de contrat de travail, et donc ils sont à la charge de la collectivité, et se posent à ce moment la question du financement de leur vie, parce que vous ne pouvez pas laisser des gens dans la rue, vous ne pouvez pas laisser des gens malades, vous ne pouvez pas laisser leurs enfants dans la rue, etc. Donc ça, c'est une véritable responsabilité, mais nous avons couplé cette préférence ou cette priorité nationale, comme on veut, avec un gros volet, que nous allons développer d'ailleurs dans les semaines qui viennent, de coopération avec les pays qui nous envoient de l'immigration. Parce que là, c'est un scandale, celui-là, national, c'est tout l'échec de la décolonisation. Voilà. Et ce serait bien qu'on mette ce débat au cœur aussi de l'immigration, mais plus personne n'en parle.
Alors maintenant qu'on a bien compris que la priorité nationale, c'est vraiment, d'un côté, les étrangers entrés clandestinement ou de manière illégale en France, et de l'autre côté, les Français ou les étrangers en situation régulière. Il y a un problème quand même qui a été relevé par, que ce soit à gauche ou à droite, dans votre idée de priorité nationale, c'est que ça a établi forcément un discrimination. Marine Le Pen parle de discrimination normale, de discrimination morale, mais discrimination quand même, discrimination qui va à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou de la Constitution de 1958 et de son préambule de 1946. C'est par exemple Didier Mauss, professeur de droit constitutionnel à l'université d'Aix-Marseille 3, qui déclare ainsi « La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire, les étrangers en situation légale comme illégale doivent être traités absolument comme des nationaux du point de vue des droits sociaux. » D'ailleurs, quand en 1998, la maire Front National de Vitrolles, Catherine Maigret, avait essayé de mettre en place une allocation naissance pour soit les parents français, soit les parents issus de l'Union européenne. Cette allocation avait été jugée illégale par le tribunal administratif de Marseille 3 mois plus tard. Alors si jamais Marine Le Pen est élue, qu'elle a une majorité à l'Assemblée nationale et qu'elle fait passer ces mesures de priorité nationale, elle sera jugée illégale ?
Écoutez, d'abord, c'est une interprétation abusive du droit qu'ont fait les tribunaux français et le Conseil constitutionnel. On demandera au passage à M. Mauss de laisser sa place. Moi, j'ai d'excellents amis qui ont fait mes études avec moi en droit à Toulouse et qui ne sont pas français et qui remplaceraient avantageusement M. Mauss à l'université d'Aix-Marseille. Donc, puisqu'il est favorable, il laissera sa place, évidemment. Voilà, c'est un exemple.
S'il nous entend, peut-être qu'il le fera.
C'est non, parce que j'ai eu à le fréquenter quand j'ai fait ma thèse de droit constitutionnel et lors d'un colloque, j'ai eu à le voir. C'est quelqu'un de très compétent, il n'y a aucun souci sur la question. Mais je veux dire, voilà, on ne peut pas raconter n'importe quoi, mais puisque les tribunaux ont interprété d'une manière abusive la Constitution française, il faudra l'inscrire, ce principe, dans la Constitution d'une manière indélébile, comme ça plus personne ne pourra revenir dessus.
Donc priorité nationale inscrite dans la Constitution.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs elle l'est, parce que si elle s'appelle la Constitution française, c'est que évidemment elle n'est pas la Constitution portugaise ou espagnole, et par voie de conséquence, elle donne la priorité à la France sur les autres nations d'Europe. Voilà.
Alors cette priorité nationale, on a bien vu, elle touche des secteurs clés qui intéressent évidemment et qui préoccupent les Français, l'emploi, avec ce chômage record à la rentrée 2012, mais aussi le logement. Et d'ailleurs, il y a un grand problème de logement en France qui a été mis sur le devant de la scène de façon très médiatique par la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que juste réserver les logements aux seuls nationaux, c'est suffisant pour endiguer cette crise ?
Non, évidemment, mais ça peut permettre d'en libérer certains ou en tout cas de préparer la construction d'autres à destination spécifiquement des Français qui en manquent. Parce que plus vous faites rentrer d'étrangers, en tout cas un nombre supérieur au nombre de logements construits par an sur le territoire, et plus évidemment il y a un problème entre guillemets d'engorgement.
Si vous êtes en charge, vous construisez de nouveaux logements pour répondre au manque, ça fait partie de votre projet ?
Vous êtes obligé, mais c'est pas seulement en construire, c'est aussi faciliter l'accession au logement, ce qu'avait promis d'ailleurs M. Sarkozy, ou l'accession à la propriété. On peut imaginer que des familles qui ont loué pendant 10 ans un logement HLM puissent en devenir propriétaires à des conditions favorables. Vous avez ce genre de petites mesures qui permettent de devenir propriétaire et donc d'activer un peu de développer le marché du logement, ou alors pour les jeunes, ce que l'on appelait dans le programme le chèque au primo-accédant, c'est-à-dire un crédit d'impôt sur les jeunes qui achètent leur logement et qui leur permet de démarrer dans la vie sans avoir un crédit trop important et qui leur permet d'avoir une famille et de gérer leur vie comme il se doit.
Alors on interroge souvent dans les médias traditionnels le Front National presque exclusivement sur les questions d'immigration ou de sécurité. Mais votre programme, on commence un peu à le voir, là, comporte, ce qui est logique, des mesures sur bien d'autres thèmes.
Ah oui.
Qui sont pourtant peu développés lors de vos passages dans les médias. Donc c'est l'occasion, par exemple, de parler d'éducation. À l'heure où l'école connaît une crise profonde, quelles sont les propositions du Front National pour répondre à cette crise de l'éducation, crise portée sur le devant de la campagne présidentielle?
Crise, mais dont on ne sent pas. Quelles sont les crises de quoi?
Alors déjà, crise de l'encadrement, avec, on a vu un nombre du taux de suicide des professeurs qui a explosé depuis 5-6 ans, crise de la formation de ces professeurs qui ont l'impression d'être délaissés par leur rectorat, par leur direction, mais aussi par les ministères, crise de l'enseignement, puisque cela fait à peu près une dizaine d'années que la France rétrograde dans les classements, que ce soit le classement de Shanghai ou les autres classements faits par l'OCDE, pour le niveau de son instruction, que ce soit pour l'alphabétisation, elle a perdu à peu près 5 places en 5 ans. Donc une crise qui touche à la fois les professeurs, mais aussi les enfants.
D'abord, oui, mais il y a des causes à cela. Il y a un système.
Alors quelles sont-elles?
Souvenez-vous de M. Allègre qui voulait dégraisser le mammouth et remettre un peu d'ordre là-dedans. Il n'y est pas arrivé parce que l'éducation nationale est devenue, un bunker qu'on ne peut pas réformer. On ne peut pas réformer parce qu'il est dans des contradictions corporatistes, moi je dirais, voilà, et notamment syndicales, qui empêchent toute réforme du système. Voilà. Alors ça part de l'école, de la petite école publique, hein, à l'université. Ça part de des moyens de l'école publique, des moyens matériels, hein, ou intellectuels, aux résultats de ces écoles-là, et c'est donc un chantier. Un schéma d'ensemble qu'il faut revoir, et on ne pourra revoir cela qu'en faisant de la politique d'éducation une priorité.
Et concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, sur la formation des professeurs, reprendre la formation des professeurs. Finalement, vous savez, moi je suis plus âgé que vous, mais je me souviens, je n'ai que 42 ans quand même, quand j'étais à l'école, la discipline était une valeur. Même pour les instituteurs de gauche, et surtout pour les instituteurs de gauche.
Ça fait partie de votre programme qui est disponible sur votre site internet. Dans le volet éducation, il est marqué « Lutter contre les violences scolaires et les atteintes aux professeurs ». Alors, concrètement,
alors ça, c'est valable. Il y a des secteurs spécifiques. Il y a des zones où il est dangereux pour certains professeurs d'aller exercer leur métier, mais pas seulement pour eux, pour des élèves d'aller tout simplement étudier. Ça, évidemment, l'État doit mettre les moyens pour régler le problème. Mais j'ai presque dire, ça c'est beaucoup plus facile que le reste. C'est beaucoup plus facile que de revenir à des enseignements primaires, j'allais dire, savoir compter, savoir lire, savoir écrire. Parce que dans la vie, de tous ceux qui ne feront pas de grande carrière intellectuelle, c'est déjà quelque chose de très important pour sa liberté personnelle. Et donc c'est reprendre en quelque sorte les programmes, hein, à la base des petites écoles, de nos petits-enfants, de les intéresser non seulement à l'histoire de France, toute l'histoire de France, mais aussi à la citoyenneté, parce que nous ne sommes pas que des consommateurs, et on voit bien les dérives de l'éducation aujourd'hui qui partent dans des filières qui sont quelquefois dont on peut regarder l'évolution avec inquiétude. C'est en quelque sorte revenir à la base de ce qu'a été la spécificité de l'école française et une certaine discipline, un certain ordre républicain, et une fois que vous avez garanti l'égalité de tous les élèves dans le minimum de savoir, je suis persuadé que pour l'avenir de la nation et même pour l'insécurité, vous arriveriez à faire baisser l'insécurité ou l'incivilité en général. Et il y a le volet enfants d'immigrés qui fréquentent les écoles. Je regrette, moi, qu'on les... on les cantonne à développer leur propre culture plutôt que de s'adapter et s'assimiler à notre culture universaliste et républicaine.
Alors, refonte des programmes, notamment pour la petite école. Et est-ce que vous êtes pour cette proposition de François Hollande de rajouter des postes à hauteur de 60 000 dans l'éducation nationale?
Oui, on ne sait pas, parce qu'il a dit, on ne savait pas si c'était un an, un 5 ans, un 10 ans.
Donc, sur le principe, moi, il faut mettre plus de postes dans l'éducation nationale.
Il y a certains endroits où très certainement il manque, mais il y en a d'autres où ils sont en trop grand nombre. Et donc je pense qu'il faudrait, et ça c'est très important, faire un audit du ministère de l'éducation nationale, parce qu'apparemment ils ne sont pas capables de vous donner au millier près le nombre d'employés du ministère, ce qui est déjà quand même un drame avec tous les hauts fonctionnaires et les grosses têtes que nous avons à la tête de l'État. On devrait quand même savoir où nous en sommes. Et après, à mon avis, effectivement, il y aurait peut-être une meilleure organisation à faire. Et dans cette meilleure organisation, je pense que, de toute façon, à l'état actuel économique, on ne peut pas se permettre d'en recruter. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de faire comme a fait le gouvernement Sarkozy, c'est-à-dire de ne pas les remplacer.
Alors, pas de nouvelles troupes pour l'éducation nationale, une meilleure répartition. Ça, c'était pour l'éducation. C'est vrai qu'on vous entend peu par l'éducation dans les médias, on vous entend aussi encore moins parler d'environnement. Alors c'est l'occasion. Alors en rafale, quelques questions courtes pour des réponses courtes avec de brèves explications, si vous voulez, sinon oui, non. Pour ou contre la sortie du nucléaire?
Pour, mais pas avant une cinquantaine d'années, au moins. Voilà. Et une fois que nous aurons trouvé les moyens de remplacer le nucléaire, parce qu'aujourd'hui, tous les discours qui disent on sort du jour au lendemain sont des discours totalement démagogiques. Voilà. Les énergies renouvelables, oui, mais pas seulement. Le gros paquet, à mon avis, financier doit être mis dans la recherche, et dans la recherche fondamentale, et notamment sur tout ce qui touche au nucléaire, au thorium, qui est une autre manière de faire du nucléaire, ou même à la filière hydrogène, par exemple.
Pour ou contre les OGM?
Alors, c'est un grand débat. Ça a été un grand débat au sein du Front National. Nous sommes pour, mais dans un milieu confiné, c'est-à-dire pour l'expérimentation, et notamment pour un volet qui est peu connu du grand public, qui est le volet médical.
Les industries dites vertes sont-elles l'avenir de l'industrie française, comme le dit par exemple Europe Écologie Les Verts?
Non, mais il est évident que le problème environnemental est un problème, n'est pas qu'un problème médiatique, et qu'effectivement, tout ce qui peut être fait pour limiter les nuisances qui sont émises par l'homme et par l'activité humaine, si elles ne sont pas nécessaires, en tout cas elles sont souhaitables.
Alors on vient d'aborder très rapidement le thème de l'industrie par le biais des industries vertes. Et alors de nombreux sondages indiquent que les ouvriers voteraient en majorité pour le Front National depuis une dizaine d'années devant l'UMP, puis le Parti Socialiste en troisième position. Évidemment ce sont des sondages à prendre avec les pincettes qu'il faut. C'est vrai que traditionnellement les ouvriers votaient plutôt à gauche, vous l'avez signalé tout à l'heure. Ils votaient Georges Marchais, ils votaient communiste. Alors comment expliquer qu'ils votent maintenant, ou qu'ils voteraient maintenant, plus pour vous? Et que proposez-vous pour lutter contre la désindustrialisation de la France?
Mais c'est dû en quelque sorte à l'échec de la gauche, surtout. Beaucoup ont espéré à l'élection de François Mitterrand en 1981. Ils ont vu que c'était un échec, et les ouvriers ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont vu que le Parti Socialiste, ou en tout cas les promesses, ne pouvaient pas être tenues, tout simplement. Et donc, ils ont basculé petit à petit vers une force politique qui parlait de leurs préoccupations, et de leurs préoccupations aussi de leur concurrence avec l'étranger, non pas dans une vision raciste ou xénophobe, mais dans une vision purement utilitariste. Voilà, à un moment donné, il faut faire des choix, et les ouvriers se sont sentis, à juste titre, abandonnés par les autres. C'est pour cela qu'ils ont rejoint le vote au Front National. Comment? En évitant les délocalisations, par exemple.
Alors comment concrètement on empêche?
Vous pouvez l'interdire, les entreprises françaises qui délocalisent, c'est un scandale national.
Mais vous savez bien que la plupart des grandes entreprises ont leurs sièges sociaux ailleurs qu'en France, elles ne sont plus des entreprises françaises, ce sont des consortiums.
Oui, mais il y a des entreprises françaises.
Oui, des PME.
Si vous prenez Renault, qui n'est pas une PME, qui est un groupe où l'État siège au conseil d'administration, et qu'on ouvre une usine, la fameuse usine qui a fait tant parler d'elle, à Tanger, avec de l'argent, certes marocain, mais aussi de l'argent européen et français, au détriment de nos usines de voitures, on voit bien que le système, il y a un problème dans le système économique. Voilà. Et donc il faut revenir sur ce système économique, mettre quelques protection aux frontières, pas un bunker, pas la France, c'est pas l'Albanie, on ne veut pas que ce soit l'Albanie des années 50. Un minimum de protection aux frontières qui permette aux entreprises de rester en France, de localiser leur production en France pour permettre le développement et le maintien des emplois en France.
Et ce minimum de protection aux frontières, ce sont des taxes par rapport aux produits importés ?
Alors, c'est notamment, ça, c'est pas valable avec l'Europe, parce qu'avec l'Allemagne, par exemple, on n'a pas de problème de ce genre-là. En revanche, on a des problèmes avec la Chine, l'Inde, le Brésil, des choses comme ça. C'est effectivement un problème de taxes, c'est un problème de réciprocité aussi. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, le Brésil. Apple veut faire son iPad au Brésil. Il demande que les iPads soient fabriqués au Brésil. Est-ce que nous, Français, on est plus bêtes que les autres ? Non, nous, on est obligés toujours de s'adapter à ce que demandent les autres. On pourrait exiger, nous aussi, cette manière de voir les choses pour fixer nos productions sur le territoire national. Plus l'État se désengage et laisse faire la loi du marché, moins il y aura d'industrie en France. Plus l'État se réappropriera ce sujet et interviendra sur les industries, et plus elle préservera son outil industriel. Mais ça demande tout simplement de le protéger, car il y a une trop grande distorsion entre des niveaux de vie ou des niveaux de développement de certains pays et le nôtre, ou en tout cas les pays européens, qui sont dans une concurrence mondiale, mais qui n'ont pas les mêmes armes de cette concurrence. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, des correctifs de droits de douane, hein, mais pas seulement, des correctifs sur la qualité des produits. Quand on prend par exemple la Chine, quelquefois, il n'y a pas la même qualité, ne serait-ce que de considération environnementale, sociale, ou même humaine. Parce que là-bas, les prisonniers travaillent, les enfants travaillent, tout le monde a très l'air de trouver ça normal. Et puis ils nous vendent nos produits qui viennent concurrencer les nôtres. Bon, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles nous pourrions, et envers lesquelles nous pourrions avoir une influence. Mais j'ai l'impression que nos gouvernements ne veulent plus mener la bataille et qu'ils considèrent que le marché mondial... Bon, il y a des gens qui, aujourd'hui, vont se retrouver sur le bord du chemin. Tant pis pour eux. On espère que tout cela s'harmonisera dans les 20 ans qui arrivent. Bon, moi, je ne le crois pas. Je pense que ça ira de pire en pire.
Des engagements de l'État, de l'industrie, des engagements de l'État aussi dans les services publics. Ça sera ma dernière question. Marine Le Pen semble être, dans cette campagne, la seule à défendre les services publics. Notamment par l'interruption, c'est dans votre programme, du processus de libéralisation et donc de ces services publics et une sanctuarisation de la participation de l'État dans les services publics. Alors le problème, c'est que cela va contre les traités européens et notamment la concurrence libre et non faussée. Alors comment faire concrètement ?
Mais écoutez, je crois que cette histoire des traités européens, c'est un faux problème. Le peuple français, qui est souverain encore, hein, s'est prononcé contre la Constitution européenne, qui était en quelque sorte, qui organisait tout cela. Elle s'est prononcée, la population, le peuple s'est prononcé contre. Donc l'Europe, elle est contestée, elle ne va pas de soi. D'ailleurs, historiquement, ça a toujours été le vieux débat, Europe des patries et Europe fédérale, Jean Monnet contre Charles de Gaulle, on a choisi Jean Monnet, et on se rend compte aujourd'hui que ce schéma-là est en train de faire faillite. D'ailleurs, monétairement, il est en train de faire faillite, il fera faillite demain. On n'en a pas parlé, mais c'est très important. L'histoire de la Grèce est très importante. Et elle fait aussi faillite sur le modèle qu'elle a voulu instaurer, fédéral, parce que avant de faire l'Europe économique, il aurait fallu faire l'Europe politique. Encore faut-il que cette Europe politique soit possible, mais ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et nous reproposerons donc au peuple français un nouveau schéma de construction européenne. Nous ne voulons pas sortir de l'Europe pour sortir de l'Europe. Nous voulons proposer une autre manière de bâtir l'Europe, c'est-à-dire une confédération d'États, une coopération entre nations européennes.
Alors pour revenir sur la question des services publics,
ça fait partie, les services publics, ça fait partie de la souveraineté de la France. Les communications, l'électricité, dont le nucléaire, qui est absolument stratégique, et dont on voit les risques qu'il y a à ce qu'ils partent dans des participations d'autres pays, ce qui serait dramatique, je pense.
Est-ce qu'il faut de nouveau nationaliser des entreprises qui aujourd'hui ont été privatisées ?
Je pense qu'il faut revenir sur les directives et que petit à petit, l'État peut reprendre, et effectivement, d'ailleurs, elles sont en grande difficulté, ces entreprises-là, hein, peut reprendre la place qu'il a eue auparavant.
Donc progressivement, oui, des entreprises qui redeviendraient à totalité publique ?
Non, pas à totalité, parce qu'il n'y a pas de raison, mais en tout cas majoritaire,
majoritairement,
qui puisse imposer un des principes fondamentaux du service public, c'est l'égalité du service sur tout le territoire. Et malheureusement, aujourd'hui, il est menacé par, justement, le critère de rentabilité qui l'emporte sur le critère d'utilité.
Merci, Louis Alliot, d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Oscar Wilde disait « Il faut, dans la chair, montrer l'homme à lui-même, moins pour le révolter par l'horreur du portrait que pour l'affliger par la ressemblance. » Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout pas à ceux dont on brosse le portrait, ou plutôt à leurs sbires aveuglés qui confondent portrait et hagiographie zélée. Voici le portrait de la semaine de Pauline. Cette semaine, Pauline, c'est Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste qui a attiré ton attention.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est plutôt toi, en fait, qui m'a fait attirer mon attention sur lui parce que, à la rigueur, je ne le connaissais pas vraiment. J'avais juste entendu son nom. Donc, Poutou, c'est l'héritier du postier, puisque nous nous souvenons tous du postier de Neuilly, candidat de la Ligue communiste révolutionnaire, ou LCR, aux élections présidentielles de 2002 et de 2007, où il recueille respectivement 4,25% et 4,08% des voix. Et jusqu'en 2011, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, NPA, qui a succédé à la LCR, c'est-à-dire Olivier Besancenot, aujourd'hui âgé de 38 ans. Sa jeunesse, sa fraîcheur, sinon sa naïveté, nous ont tous marqués. Mais avec lui, le dicton « jamais 203 » ne se confirmera pas. En effet, en mai dernier, il nous a assuré que sa bonne bouille ne candidaterait pas à la présidentielle de 2012. Et c'est avec un homo novus, Philippe Poutou, 44 ans, bordelais, qu'il faudra compter désormais. Le postier, donc, le cède à l'ouvrier. Faut-il y lire une inflexion idéologique ? Peu importe, car, en définitive, le message reste le même. Ce sont toujours les valeurs de travail bien fait, de simplicité, de modestie et de solidarité qui se trouvent portées par Poutou candidat, mais aussi, sinon surtout, par tous ses fervents soutiens, proches ou lointains. Ainsi, la nouvelle coqueluche du NPA assure « Je ne vais pas passer des mois déconnecté de l'usine. Psychologiquement, c'est impossible. Je tiens à être un salarié en campagne. » Pas facile lorsqu'on travaille de 6h à 14h. D'autant que le candidat compte, selon ses propres mots, continuer les repas avec les copains, sans oublier sa compagne et les deux enfants de cette dernière, avec qui il vit à Bordeaux. Sa solution pour y parvenir ? Mener une campagne collective qui correspond mieux au NPA. Ah, campagne collective. Ici, est-ce la peur qui parle ? En effet, quoi de mieux qu'en appeler au collectif et à la cohésion du parti pour échapper, ne serait-ce qu'un temps, à la nécessité d'un engagement intime et d'une prise de position personnelle ? Certes, il va bien au NPA et à son candidat de se targuer d'un caractère uni et solidaire. Mais encore ne faudrait-il pas oublier à quel point en France, le président de la République, pour être un symbole d'union et de fraternité, est d'abord, paradoxalement, un homme seul et tourmenté. Et être candidat à la présidentielle, c'est certes accepter et de temps en temps subir les rencontres, les interviews, les discours, les meetings, les applaudissements, mais ce doit être aussi se montrer capable de recevoir les compliments sans qu'en sorte un ego surdimensionné, et aussi les reproches sans rien perdre de son ardeur, et faire des promesses dans lesquelles on croit tout en sachant pertinemment ne pouvoir toutes les tenir, c'est-à-dire porter un certain idéalisme parce qu'il galvanise, mais ne pas se leurrer soi-même, et ce doit être aussi mentir, parfois, par omission, par nécessité, transpirer, manger sur le pouce, rester des heures debout, parler, parler et parler encore. Bref, être candidat, c'est à la fois faire campagne pour être élu et s'entraîner pour quand on sera élu, c'est-à-dire épuiser ses forces autant que ses principes, sa santé, autant que sa morale, se mouiller, comme on dit. Et sur ce chemin, bien qu'entouré, le candidat est seul, car c'est son corps et c'est son âme qu'il soumet à l'épreuve, celle du vote, de l'approbation ou non de tout un peuple, de ces Français, moyens extrêmes, que le candidat courtise, courant ce faisant à sa propre perte. La seule question qui alors mérite d'être posée en ce qui concerne le candidat du NPA, a-t-il la carrure ? D'autant que pèse sur lui le spectre de l'ancien, du pionnier même, le postier, Besancenot. Ironique quand on sait que le propre père de Philippe Poutou, socialiste convaincu et fervent admirateur de Mitterrand, était postier lui aussi. Il s'agit donc pour Poutou, dans tous les sens du terme, de tuer le père. Le père biologique d'abord, qui donnait dans la rose quand le fils jouait à la nare. Le père spirituel ensuite, qui semble avoir légué à son héritier un costume de candidat un peu trop grand. Et pourtant, il y a eu ce 27 février 2012. Philippe Poutou est invité de mots croisés aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet, Louis Alliot et Jérôme Cahuzac. Face à ces pros de la politique, personne ne donne cher de lui. Contre toute attente, les téléspectateurs le voient répondre, répliquer, riposter, argumenter et ne rien lâcher, ne rien céder. Même sa voisine polytechnicienne se fait tacler. Sur Twitter, la prestation enthousiasme et étonne les internautes. Une étoile médiatique est née. Ce soir, Philippe Poutou crève l'écran. L'Oscar du candidat décoiffant, c'est pour lui. A star is born.
Yeah.
Poutou lâche les freins et colle au mur Nathalie Kosciusko-Morizet qui reste sans voix. Ultime compliment. Le facteur besancenot a trouvé son successeur. Reste juste à savoir si les sondages suivront et surtout les résultats. Et si l'homme Poutou supportera, car alors il sera seul. Ha! La campagne présidentielle, l'élection présidentielle, ils nous promettent tous le changement. Et Poutou d'ajouter que lui, en plus, non seulement il nous apportera le changement, mais sans rien changer à sa vie, d'homme simple et modeste. Car alors, à son exemple, force est de constater que c'est moins la campagne et les candidats qui vont changer la France que la France et la campagne qui changent les candidats.
Alors on retiendra Philippe Poutou, c'est l'héritier du postier. Et je te dis merci Pauline. François Hollande était à Dijon en meeting le 3 mars. Ça tombe bien. Jérôme aussi, enfin pas en meeting, juste à Dijon. Compte rendu.
Le ton monte d'un cran dans cette campagne présidentielle. En ce samedi 3 mars, à plus de 700 km de distance, Nicolas Sarkozy et François Hollande s'affrontent, chacun s'arrêtant pour faire le point sur les valeurs fondamentales de notre vivre ensemble et donnant sa vision de la République. À Bordeaux, c'est sur un ton passionné que Nicolas Sarkozy, devant plus de 7000 personnes, s'est livré à la défense de sa conception de la civilisation de la République française, fustigeant au passage son adversaire François Hollande. Mais c'est au meeting de ce dernier, au Zénith de Dijon, baptisé « Territoires et Républiques », que nous nous intéressons cette semaine. François Hollande, devant une salle survoltée et pleine à craquer avec 10 000 personnes, dont 4 000 n'ont pas pu rentrer à l'intérieur, s'est adonné à une déclaration d'amour aux territoires et aux élus de la République, dont il s'est plu à rappeler qu'il a fait partie en tant que maire de Tulle, puis président du Conseil général de Corrèze. C'est tout particulièrement au maire de France qu'il a rendu un vibrant hommage, en notant, au passage, qu'avec les 5 lettres du mot « maire », on peut écrire le beau verbe « aimer » et en rappelant qu'aimer la France, c'est avant tout la servir. Le candidat socialiste a fait mémoire des acquis sociaux des républiques de la France à travers l'histoire, la première avec l'abolition des privilèges, la deuxième avec l'abolition de l'esclavage, la troisième avec l'institution de l'école gratuite, laïque et obligatoire, la quatrième avec l'attribution du droit de vote aux femmes et la création de la sécurité sociale au nom de la solidarité entre les citoyens. Et la cinquième, avec la fin de la colonisation et l'abolition de la peine de mort. Mais c'est sur les lois de décentralisation Gaston Defferre qu'il est particulièrement revenu, en rappelant qu'auparavant, c'était les préfets qui détenaient les pouvoirs exécutifs dans les départements, et non des assemblées qui tiraient leur souveraineté du peuple, et en annonçant que s'il est élu à la présidence de la République française en mai prochain, il mettra en œuvre une nouvelle étape dans le processus de décentralisation. La France a eu besoin de la centralisation pour se faire, elle a désormais besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire, a-t-il souligné. Outre son efficacité dans les économies, l'accroissement de la décentralisation permettrait d'accompagner et d'adapter la traduction des priorités au niveau local. Dans son arsenal, un pouvoir réglementaire permettant aux conseils régionaux d'adapter la loi nationale aux réalités du territoire, en vue d'une mise en œuvre commune des objectifs prioritaires. Cela passerait par la création d'un Haut Conseil des territoires, une instance de concertation et de proposition qui s'appuierait sur le Sénat et garantirait le niveau de dotation de l'État aux collectivités territoriales, ainsi que les impôts locaux, condition de l'autonomie des communes, des départements et des régions. Il est normal que Neuilly paye pour Bobigny, a déclaré François Hollande, proposant en outre que la sanction financière soit multipliée par 5 pour les communes qui ne respecteraient pas le pourcentage légal des logements sociaux. Le candidat socialiste entend allouer aux régions des compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche, alors que celles-ci n'avaient jusqu'à présent en charge que les lycées, tandis que les collèges reviennent toujours au département. Enfin, la gestion des fonds structurels européens doit, selon lui, être assurée par les régions et non pas par l'État, qui gardera cependant les grandes priorités de politique économique. C'est donc une charge contre l'omniprésidence que François Hollande a lancée en s'appuyant sur la célèbre formule de Montaigne « c'est être nulle part qu'être partout » et en donnant le portrait robot du président de la République idéale, un président indépendant de tout parti, qui rend des comptes à son peuple tous les 6 mois, qui s'appuie sur un véritable gouvernement où le Premier ministre n'est pas un collaborateur et où les ministres ne sont pas des fers à valoir. Quant au Parlement, il doit, selon lui, assurer et renforcer les solidarités territoriales avec l'interdiction du cumul des mandats et l'instauration d'une part de proportionnelle dans le scrutin législatif, idée dont le candidat a rappelé qu'elle n'est pas nouvelle mais a été mise en œuvre par François Mitterrand en 1986. Bref, ce sont les régions qui se taillent la part du lion dans cette nouvelle répartition des pouvoirs. Cependant, celui qui est encore président du Conseil général de Corrèze Descartes la fusion entre conseil général et conseil régional, fusion prônée par le numéro 2 de l'UMP, le libéral Hervé Novelli, estimant que les départements ont encore un rôle à jouer, y compris comme centre décisionnel, et propose de mettre un terme au conseiller territorial, je cite, « cet être hybride qui ne verra jamais le jour », et d'inventer un nouveau mode de scrutin à l'échelle locale pour assurer à la fois la proximité, la parité et la pluralité des sensibilités. François Hollande se prononce enfin pour le maintien des 36 000 communes, en affirmant qu'il ne s'agit pas seulement d'un héritage de la République, mais aussi d'une chance humaine et administrative qui permet le maintien des services publics dans les zones rurales, tout en entendant rendre les grandes agglomérations plus attractives à l'échelle de l'Europe, sans oublier Paris, qui fait de l'Île-de-France la première région européenne. C'est ainsi sur la diversité des paysages, des situations et des vies sur le territoire français que François Hollande, avec un salut spécifique pour les dom-tom, a conclu son discours fleuve d'1h20 en affirmant vouloir couvrir d'ici 10 ans l'ensemble du territoire national de très haut débit, en réaffirmant que personne ne doit se trouver à plus d'une demi-heure d'un accès aux soins, en assurant que la ratification de la charte des langues régionales qu'il appelle de ses voeux ne menacera pas la République indivisible, pas plus que la modernisation des modes de scrutin, le vote des étrangers aux seules élections municipales et l'élargissement du droit de pétition ne nuira à la démocratie en France, avant de faire précéder la Marseillaise finale et le traditionnel « Vive la République, vive la France » d'un « Vive la solidarité de l'État et la force des collectivités de notre territoire. »
Merci Jérôme. Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Pour réagir et suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez ajouter Présidence parmi vos amis sur Facebook. Merci à Xavier et Caroline à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Et je signale aussi Fabien, parce que sinon, comme c'est le président, je vais avoir des ennuis. Au programme de Présidence au mois de mars, Vincent Goutani, porte-parole de Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière, ainsi que Corinne Lepage, candidate à l'élection présidentielle pour le parti CAP21, c'est ma copine. C'est à découvrir bientôt sur les ondes de Transistor. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.